L'esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette émission en direct et en public de la Maison de la Radio, devant un public qui a bravé une horde de trotteurs, puisqu'ils joguent et qu'en anglais tout jog ça veut dire trotter, une horde de trotteurs ou de trottins, je ne sais pas, autrefois on disait trottins pour des dames qui arpentaient le trottoir. Bien entendu, je n'ai absolument rien contre le jogging, d'autant plus que quand je regarde ces trottins, je me souviens que l'homme qui a popularisé le jogging est lui-même mort en joguant dans un survêtement parfaitement adapté.
Faut pas rêver, Philippe.
Et simplement, je trouve que la préfecture de police ou la mairie, je ne sais pas, a une façon d'organiser la circulation qui fait que pour traverser la Seine, il faut aller à Rouen pratiquement, ce qui fait que le public qui est là a particulièrement de mérite et que Sylvie Kaufmann ne nous a pas encore rejoint, mais elle ne saurait tarder. On nous l'annonce dans le 16e arrondissement, elle doit être entre Rouen et le 16e arrondissement. Nous sommes ici donc pour le moment, en attendant Sylvie, Jean-Louis Bourlange, essayiste, François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, et Thierry Pêche, directeur général de la Fondation Terra Nova. Avec eux, nous allons commencer par nous intéresser à l'état actionnaire. La direction d'Alstom a annoncé début septembre le transfert des activités de fabrication des locomotives et des motrices de TGV depuis l'usine de Belfort vers le site alsacien de Reichshoffen d'ici fin 2018. Ce déplacement, décidé après une baisse des commandes afin de rationaliser l'outil industriel, devait concerner 400 salariés sur les 480 présents sur le site de Belfort, ce restant étant affecté à des tâches de maintenance. L'annonce de l'arrêt des activités de fabrication dans un établissement produisant des trains depuis la fin du 19e siècle a déclenché de vives réactions. L'ancien maire de Belfort, Jean-Pierre Chevènement, a dénoncé un coup en douce et affirmé qu'on avait nationalisé Renault pour moins que ça à la Libération. Dans une tribune publiée dans Le Monde, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé la fermeture d'un fleuron industriel centenaire causé par des traités européens absurdes et des règles de concurrence soi-disant libres et non faussées. Il a appelé à la nationalisation d'Alstom et à la reconstruction de l'industrie française. Le gouvernement a commencé des négociations avec le PDG d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, avec pour objectif de maintenir l'activité du site de Belfort alors que l'État français est actionnaire de référence avec 20% du capital. Après 3 semaines de tractation, le secrétaire d'État à l'industrie, Christophe Sirugue, a présenté mardi 4 octobre un plan d'investissement de plus de 770 millions d'euros sous la forme d'une commande de 15 trains à grande vitesse pour une ligne intercité. Cet investissement doit permettre le maintien de l'activité du site de Belfort au moins jusqu'en 2021, en attendant la commande d'une nouvelle génération de TGV par la SNCF. Le président de la République a salué la conclusion de cet accord et affirmé que l'État avait pris ses responsabilités en assurant la pérennité de l'entreprise. Christophe Sirugue s'est félicité d'avoir trouvé un avenir industriel pour le site de Belfort en pérennisant 1500 emplois directs et 3000 emplois indirects de sous-traitants. Et interrogé sur cette commande à l'occasion du Mondial de l'automobile, le ministre de l'Économie, Michel Sapin, a rappelé que le précédent d'un investissement par l'État de 800 millions d'euros pour renflouer le constructeur automobile PSA, aujourd'hui en plein développement, après une intervention à juste titre de l'État. Sur cette question, Thierry Pêche.
Eh bien, pour commencer, quelques commentaires sur Alstom, avant d'en venir au problème que vous présentiez comme étant le sujet de cette discussion, c'est-à-dire l'État actionnaire. Alstom n'est qu'une petite partie. Je rappelle que l'État ne possède que 20% du capital d'Alstom Transport, n'est qu'une petite partie de cette problématique de l'État actionnaire. Alors sur Alstom, quelques mots qu'on n'a pas assez rappelés. Alstom, c'est un chiffre d'affaires en progression de 12% sur l'année écoulée. C'est un résultat d'exploitation en progression de 23%. C'est un bénéfice net de 3 milliards d'euros sur 2015. Donc c'est une entreprise qui va bien, qui a des fonds propres confortables et un endettement modéré. Quand on a dit ça, on s'étonne évidemment un peu de voir ce qui se passe à Belfort. Sauf que les merveilleuses performances d'Alstom Transport se font de plus en plus à l'exportation et que les emplois aussi s'exportent parce que les clients, souvent des marchés publics, demandent à ce que la production soit faite sur place. Donc quand on vend aux États-Unis, eh bien les emplois vont aussi en très grande partie aux États-Unis. C'est aussi ce que fait l'État français d'ailleurs dans ses appels d'offres très souvent. Donc là-dessus, Pas de mystère, le problème de Belfort, c'est le problème d'un marché domestique qui tend à se contracter. Et donc, à la fin, effectivement, pour sauver ses emplois à Belfort, il faut une commande qu'on va appeler une commande de convenance, parce qu'effectivement, il n'y a pas de besoin immédiat de TGV, de manière à ce que le site de production de Belfort puisse jointer, comme on dit, entre les commandes publiques qui seront liées au TGV du futur et son carnet de commandes d'aujourd'hui, qui est trop maigrement rempli. Donc voilà le drame de Belfort d'une certaine façon, et il n'y a pas beaucoup plus à en dire me concernant. En revanche, il y a beaucoup d'interrogations à soulever concernant les stratégies de l'État actionnaire. Oui, un dernier mot pardon sur Alstom, je voulais finir par ça. Ce qui eût été cohérent, c'est pas de commander 15 ou 20 TGV à la va-vite, d'ailleurs dans des conditions auxquelles Bruxelles pourra trouver à redire dans les semaines qui viennent, c'est plutôt d'honorer l'engagement qui avait été pris au Grenelle de l'environnement de développer le fret ferroviaire. On s'était engagé à passer de 15% de fret ferroviaire à 25%. On est tombé à 10 pendant que les Allemands montaient à 25. Donc, si le marché domestique se contracte, c'est aussi parce qu'on n'a pas mené les politiques qu'on s'était engagé à mener. Quelques mots sur l'État actionnaire de façon plus générale. On a beaucoup dramatisé à travers Belfort l'incompétence de l'État actionnaire. Il est certain qu'il n'a pas fait preuve d'une très grande vigilance et d'une très grande compétence. Mais enfin, l'État actionnaire, aujourd'hui, c'est beaucoup moins que ce que c'était par le passé. Les participations de l'État se sont beaucoup diluées. L'État n'est plus majoritaire que dans quelques entreprises. EDF, qui lui coûte très cher, Areva, qui a sombré, la SNCF, la Poste, Aéroport de Paris, France Télévisions. Mais il est minoritaire dans presque toutes les autres. Dont Safran, Thalès, tout ce qui concerne l'armement, Renault, Orange, Air France. C'est un juteux portefeuille néanmoins quand on regarde les exercices passés, car sa contribution au désendettement de l'État est tout à fait significative. 1,5 milliard en 2014, 800 millions l'an passé. Et c'est un des problèmes de cet État actionnaire, c'est qu'il est gourmand en dividendes et qu'il est prêt pour obtenir ces dividendes à d'ailleurs s'asseoir sur un certain nombre d'intérêts des entreprises qu'il contrôle. Ce qu'il faut avoir en tête, si vous voulez, c'est l'ensemble des conflits d'intérêts dans lesquels se trouve l'État du fait de ses participations dans ces entreprises. Conflits d'intérêts entre, je dirais, le rôle normal d'un actionnaire et la paix sociale. À la SNCF, régulièrement, chez Air France, on voit que l'État est prêt à s'asseoir sur les intérêts de l'entreprise pour avoir la paix sociale. Conflit d'intérêts avec ses engagements par ailleurs. Il est pour 20% dans Alstom, mais il contrôle la SNCF qui commande des trains. Donc il est tenté de tordre le bras à la SNCF pour commander des trains. Idem entre ses participations dans Air France et ses participations dans l'aéroport de Paris. Conflit d'intérêts également dans ses politiques d'investissement public. Il tire des lignes à grande vitesse entre des villes qui seront des lignes à grande vitesse qui ne seront pas rentables parce que ça crée des emplois locaux, parce que ça convient aux revendications locales, mais pas du tout aux intérêts des entreprises. Conflit d'intérêts avec ses missions de régulation. Comment peut-on imaginer que l'État ne soit pas jugé parti, par exemple dans l'affaire de la sécurité nucléaire? Il est producteur, mais il est aussi le régulateur. Ça pose une question. Pour ne pas revenir sur les conflits d'intérêts passés avec la santé publique, avec la CEITA, etc. C'est tout ça qu'il faut regarder en face. Et je pense que l'État doit rester actionnaire d'un certain nombre d'entreprises. Il ne s'agit pas de légitimer son retrait partout, mais il doit le faire avec une philosophie et une doctrine qui restent à clarifier.
François Bujon de l'État.
Mais moi, je suis plus sévère que Thierry, à la fois sur l'affaire Alstom et sur l'État actionnaire en général. Bon, sur l'affaire Alstom, tout a été dit, je crois, et il y a un consensus d'ailleurs formidable qui va de la lecture des éditoriaux de l'Humanité à celle de la presse de droite. Il y a beaucoup de choses dans cette solution qui sont une insulte au bon sens. Faire rouler des TGV à petite vitesse pour le réseau intercité, alors que les coûts d'entretien des TGV sont beaucoup plus élevés que ceux des trains corail, par exemple. Construire des TGV dont on n'aura pas l'usage avant 2025, les faire acheter par l'État parce qu'on préfère accroître le déficit de l'État plutôt que celui de la SNCF. Enfin, on pourrait continuer une triste litanie de véritables insultes au bon sens. Surtout payer 450 millions d'euros, alors que l'État, comme chacun sait, est très impécunieux, pour éviter de déplacer 400 emplois du territoire de Belfort au Bas-Rhin, ça fait quand même très très cher l'emploi sauvé. Ça a été calculé, ça fait 1 million 12 d'euros par employé non déplacé. c'est beaucoup. Si on appliquait ça, par exemple, pour sauver les emplois aux 50 000 emplois qui ont été enregistrés, aux 50 000 chômeurs supplémentaires qui ont été enregistrés par Pôle emploi pour le mois de septembre, ça aurait coûté 56 milliards d'euros à l'État. Donc on est quand même dans une logique dont vous comprendrez que tout le monde ne puisse pas l'approuver. Alors ça, c'est l'État actionnaire. L'État actionnaire, Thierry l'a dit, mais c'est vrai, il est pris entre des considérations tout à fait contradictoires. Considérations de services publics, qui sont parfaitement légitimes et compréhensibles, mais aussi une compréhension de bonne gestion. Surtout que l'État actionnaire se retrouve souvent, avec des participations résiduelles, actionnaires minoritaires dans des entreprises qui sont cotées en bourse et qui, par conséquent, doivent pouvoir satisfaire leurs actionnaires. Alors, il y a des exemples abondants de ces contradictions. EDF est l'exemple le plus éclatant, parce que dans EDF, l'État fait tout. Il est le véritable maître Jacques, vous l'avez dit, Thierry. Il est à la fois actionnaire à 85%, ce qui est quand même énorme, d'une société qui est cotée en bourse, bien qu'on l'ait retirée du CAC 40, elle reste cotée. L'action ne vaut plus guère que 10 euros, d'ailleurs, ou quelque chose comme ça. L'État est en même temps régulateur, il est en même temps garant de la paix sociale dans une entreprise qui est pratiquement co-gérée par la direction et par la CGT depuis de longues années, au point qu'elle a accru sa masse salariale d'une façon que la Cour des comptes juge disproportionnée, puisqu'il y a eu des augmentations de salaire de 3% par an, sans rapport avec l'environnement économique général, entre 2005 et 2010, par exemple, très très critiqué par la Cour des comptes. Dans le cas de l'État d'EDF, c'est très frappant, parce que l'État est également responsable des investissements. C'est lui qui impose une certaine masse d'investissements à Électricité de France, tout en faisant ce qu'il peut pour ne pas augmenter les tarifs d'électricité, c'est-à-dire pour limiter les recettes de la même société, à laquelle, par ailleurs, on impose de payer un dividende très très lourd, puisque le dividende jusqu'à l'année 2015, où on a cessé de le réclamer à EDF, était à peu près 2 milliards d'euros par an, c'est-à-dire quand même une part importante de la somme totale des dividendes perçus par l'État. Donc on est en pleine incohérence, véritablement. Et pour avoir été moi-même administrateur à 4 reprises de sociétés publiques ou dans lesquelles l'État avait une participation, je dois dire que ça fait plus de 40 ans que je peste contre l'État actionnaire. Si vous me permettez un dernier mot, je peste particulièrement contre les participations résiduelles de l'État dans un certain nombre de sociétés ou les chiffres d'actionnariat. Prenez Alstom, c'est très intéressant. L'État à 20%, où il a en tout cas l'usage des 20% empruntés à Bouygues, en réalité, depuis que le gouvernement a autorisé le rachat des turbines par General Electric. Mais 20%, on apprend ça dans toutes les écoles de management en première année, ça ne rime à rien d'avoir 20% du capital. Ou bien on a une golden share et on a 5% pour pouvoir peser un peu, ou bien on a une minorité de blocage, mais quand on a 20% dans une entreprise, on cherche généralement soit à accroître, soit à diminuer sa participation. C'est parfaitement absurde.
Sylvie Kaufmann.
Oui, alors il y a plusieurs étages à cette fusée, voire cette bombe Alstom. Il y a d'abord l'étage politique. On a une décision qui est de la fermeture d'une usine qui est annoncée à 8 mois de l'élection présidentielle, probablement pas tout à fait par hasard, dans un contexte politique hautement volatile. Il faut voir qu'on a presque les principaux acteurs de notre vie politique actuelle ont été de près ou de loin mêlés à Alstom. Hein. Il y a eu Nicolas Sarkozy en tant que ministre quand il était à Bercy en 2004. Il y a eu Montebourg, il y a eu Macron. Donc maintenant, il y a le président Hollande. Donc c'est assez intéressant. Donc évidemment, tout ça se retrouve dans l'assiette de l'Élysée et qui trouve quelques esprits créatifs, imaginatifs dans l'administration française et qui n'en manque pas. C'est mon collègue Jean-Marc Vittori des Échos qui rappelait cette anecdote bien connue des cheminots. Quelle est la différence entre un train et un polytechnicien? Le train, quand il déraille, il s'arrête. Donc voilà. Donc ils ont ces esprits ont élaboré un plan de sauvetage. Ils ont inventé au passage cette nouvelle technologie française qui est le TGV-PV. Train grande vitesse à petite vitesse. Je ne sais pas comment ça va s'exporter. Et qui permet en tout cas à l'usine de Belfort de rester en activité jusqu'à l'arrivée du plan de charge des TGV du futur. Alors, oui, c'est un montage assez farfelu, périlleux juridiquement, parce que je crois que l'Union européenne va s'y intéresser de très près pour voir s'il y a des aides d'État ou si les appels d'offres ont été... n'ont pas été respectés, mais est-ce que c'était correct ou non? Alors, il paraît que tout ça est bien verrouillé, mais enfin, bon, je pense que ça va quand même être scruté, passer à la loupe. Et en tout cas, ça met l'État dans la position d'État pompier et non pas dans celle qu'on aimerait lui voir plutôt d'État stratège. Alors, deuxième étage, comment on est arrivé là? C'est l'étage industriel. On a une entreprise, Alstom Transport, qui se porte très bien de manière générale, qui a apporté, qui a enregistré, je crois, à la fin de l'exercice, du dernier exercice, un bénéfice net de 3 milliards d'euros, comparé à une perte en 2015 de 701 millions d'euros. Donc c'est bien, gros succès à l'exportation. Et tout ça est extrêmement paradoxal pour les Français, parce que Alstom, Belfort, c'est une forte... portée symbolique, c'est de cette usine qui est sortie la première motrice de TGV. Le TGV, c'est une technologie dans laquelle la France a été pionnière, c'est une vraie fierté nationale. À l'échelle mondiale, ça marche très bien. C'est un secteur florissant dans les pays émergents, etc. Or, l'usine de Belfort est passée de 1400 ouvriers il y a 25 ans à 630 en 2013 et maintenant à 480. Et peut-être la menace était qu'il n'y en ait plus du tout. Donc là, on est en présence du vrai problème de la désindustrialisation française, face à la mondialisation, au mastodonte chinois dans le transport ferroviaire. Et puis le fait qu'on a opéré pour vendre à l'étranger des gros transferts de technologies, que de plus en plus nos clients étrangers exigent que les emplois se trouvent de fabrication se trouvent chez eux et non plus chez nous. Voilà. Et puis il y a un écueil sur la route d'Alstom, sur la route plutôt de l'usine de Belfort, dont on a assez peu parlé parce que ça s'est passé en plein mois d'août. Il faut toujours se méfier des annonces qui sont faites au mois d'août en France. Alstom a perdu un appel d'offres de 44 locomotives pour la SNCF au profit du constructeur allemand Vossloh.
Troisième.
Akiem, voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'Akiem? Akiem, cette firme, a commandé 80 locomotives à Vossloh et à Siemens depuis 2 ans. Akiem, c'est une filiale de la SNCF qui a été longtemps une filiale à 100% et qui, depuis, je crois, quelques mois, appartient à 50% à la Deutsche Bahn. Voilà, donc là, il y a aussi quelque chose qui pose maintenant la question du troisième étage, et j'en termine là, de l'étage, de la structure, de l'actionnariat. L'État, effectivement, ne peut pas tout, mais comme vous le soulignez tout à l'heure, il y a des conflits d'intérêts dans cet État actionnaire qui, et on le voit bien là en l'occurrence, je crois que cette affaire pose des vraies questions. D'abord, évidemment, l'État actionnaire, il a des intérêts politiques qui ne sont pas nécessairement les intérêts de l'actionnaire privé. Il voit ses objectifs sont forcément liés à des campagnes ou à des échéances électorales, ce qui n'est pas le cas de l'actionnaire privé. Donc ça pose cette question-là. Je voudrais juste, pour terminer, émettre une suggestion. Il y a une autre forme d'actionnariat d'État qui est le fonds souverain, qui est une forme d'actionnariat indirect que pratiquent avec beaucoup de succès certains pays émergents, et même pas émergents comme la Norvège, je pense à Singapour aussi. Et c'est une formule dans laquelle l'État est moins exposé politiquement.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, pour les fonds souverains, il vaut mieux avoir des excédents, c'est ça le problème.
C'est le problème, effectivement.
Faire des fonds souverains avec des déficits, c'est extrêmement difficile. Enfin, après tout, l'ingéniosité française ne sera peut-être pas prise en défaut constamment. Moi, je voudrais profiter de cette rencontre pour adresser mes félicitations et mon admiration à Thierry Pêche. Parce que je trouve que
sent le cadeau empoisonné.
Il a montré en cette affaire sa complète indépendance, car il a fait une double analyse critique parfaite, à la fois de l'absurdité de la décision qui a été prise sur Alstom. Alors, je ne reviens pas, tout a été dit par François, par vous tous, etc. Mais c'est absolument aberrant sur le plan économique, sur le plan juridique, sur le plan économique, sur le plan parce que ça c'est vraiment boucher un trou en faisant un autre. On ne sait pas du tout quelles sont les retombées, par exemple sur Valenciennes pour Bombardier. Enfin, tout ça est totalement absurde, et l'idée de faire rouler effectivement des trains à petite vitesse qui coûtent en exploitation 30% de plus, alors même qu'on est adossé
poussée depuis des années, à la demande de Pépi, d'ailleurs, qui a tout à fait raison de le dire, à une volonté de repli sur l'investissement TGV par rapport à une concentration sur ce qui est important et qui est très coûteux et très dur, qui est l'amélioration des liaisons dans l'agglomération parisienne, par exemple. Donc c'est là la priorité, et c'est pourquoi on a retardé toutes ces liaisons TGV au sud. Et là, on contredit tout ça. Donc tout ça est totalement absurde, et je dois dire que, sans avoir ce ton un peu véhément qui est le mien, Thierry l'a exprimé avec la modération, qui est beaucoup plus efficace, d'ailleurs, qu'il caractérise. Deuxièmement, il a fait une critique plus intéressante encore.
Mettez votre casque, Thierry.
Il a fait une critique plus intéressante encore, où il a montré... Les incompatibilités, enfin l'absurdité de l'État actionnaire. Car effectivement, ça fait longtemps qu'on a fait ce procès. En fait, on l'a fait dès la fin des années 60, avec le rapport Nora, où on montrait bien qu'une entreprise publique devait avoir une logique de fonctionnement tout à fait autonome par rapport à l'État, que l'État devait intervenir s'il voulait faire passer des missions de service public à travers des relations contractuelles avec cette entreprise publique et non par le biais d'une tutelle. Et là, parce que là, on est dans la situation qu'a décrit très clairement Thierry, où l'État a plusieurs objectifs à la fois et donc il n'y a aucune clarté. En fait, il faut séparer les rôles. Ce n'est pas parce qu'on a un entrepreneur privé qu'on n'est pas en mesure, en tant que puissance publique, à la fois par la réglementation et en tant que client, par la contractualisation, d'obtenir que des missions de service public soient assurées. Et alors là, on a vraiment des exemples tout à fait typiques. Vous avez cité, je crois que c'est François qui a cité le cas d'EDF. EDF, c'est extraordinaire aujourd'hui. EDF, l'État se fait servir des dividendes massifs, alors même que EDF accroît son endettement. Vous me direz, c'est idiot. Pas du tout. C'est parce que les dividendes permettent de diminuer la dette maastrichtienne et l'endettement de EDF, ça permet d'augmenter une dette non maastrichtienne, donc qui ne rentre pas dans les 3%. C'est malin, ça. C'est évidemment totalement absurde économiquement. Et là, l'État client, c'est pas l'État actionnaire qui est intervenu chez Alstom, c'est l'État client. J'arrive, j'achète. L'État actionnaire, quand vous êtes actionnaire, vous vendez, vous n'êtes pas acheteur. Donc j'achète des choses dont je n'ai pas besoin. C'est effectivement l'absolue confusion des genres. Et je crois que là, on voit bien une clarification. La troisième remarque, c'est qu'il faut quand même se demander si ça marche. Parce que quand je vois une personnalité, certes très éclairée, mais quand même assez engagée à gauche comme Thierry, je me dis que pour qu'il soit à ce point critique, qui est convaincu par les propos de M. Sirug et qui est convaincu par l'attitude du gouvernement? Et je me dis que ça fait quand même 5 ans que M. Hollande fait que de l'électoralisme et qu'il est en bas dans les sondages et qu'on peut se poser la question, même si on doit se dire qu'au bout du compte, l'État actionnaire comme l'État budgétaire, c'est comme l'assurance maladie, c'est les 6 derniers mois du quinquennat comme les 6 derniers mois de vie dans l'assurance maladie, qui coûte le plus cher.
Thierry Pêche.
Bon, alors là, je suis ligoté au poteau. C'est vraiment le baiser de la mort. Mais je remercie Jean-Louis pour cet hommage appuyé, auquel je voudrais apporter toutefois quelques nuances, si vous le permettez.
Il y avait plus d'appui que d'hommage.
Non. Vous me décevez, Philippe. Franchement, je l'avais pris en bonne part.
C'était lié,
c'est le mot qui convient. Alors... quelques observations. Quand François dit 20% c'est stupide, c'est moins ou c'est plus, on apprend ça dans toutes les écoles de management.
Absolument.
J'espère qu'on apprend autre chose. J'espère qu'on apprend autre chose dans les écoles de management, c'est que dans le cas de PSA, 14% c'est pas stupide. C'est pas stupide parce qu'il s'agit de faire contrepartie, contrepoids à Dongfeng, aux Chinois. Il s'agit de sauver une entreprise qui aujourd'hui va bien et d'ailleurs dont le capital s'est beaucoup apprécié, ce qui a été, et Montebourg a raison, une bonne affaire. Je veux mettre l'accent là-dessus sur les quelques cas où l'État actionnaire, c'est bien. Il y en a un, et d'ailleurs ça s'est pratiqué aux États-Unis, vous connaissez bien les États-Unis, François. Obama n'a pas hésité un seul instant à engager l'argent public dans un certain nombre de filières industrielles après la grande crise, la grande récession de 2008. C'est bien pour sauver temporairement des outils industriels qui sont dans des cycles de production très longs et qui ont besoin de capital patient. Et le capital public doit être un capital patient. Mais ça ne doit pas nécessairement durer 15 ans. Hein. Donc là, je crois qu'il faut apprendre ça aussi dans les écoles de management.
Mais il faut en sortir une fois qu'on y est entré et revendre avec profit si possible.
Effectivement, on pourrait revendre une partie des 14% de PSA avec un grand profit aujourd'hui. C'est d'ailleurs peut-être une idée qui viendra à l'esprit oui. de l'Agence des participations de l'État. Deuxième cas de figure où l'État actionnaire, ça n'est pas stupide, c'est dans des fonctions absolument stratégiques ou régaliennes, comme l'indépendance énergétique de la nation. Et c'est pour ça que 85% dans EDF, ça peut se défendre. Et c'est aussi, éventuellement, l'indépendance de la nation dans les industries d'armement. Personne ne discute des participations de l'État dans Safran, Thales ou d'autres outils industriels qui sont orientés vers la production d'armement. Donc, je crois qu'il faut repenser la doctrine d'intervention de l'État actionnaire. C'est ça qu'il faut repenser. Il ne faut pas dire comme Juppé, je l'ai entendu dire ça, ça me paraît un peu idiot, un peu idéologique, si vous voulez, l'État doit se retirer. Ben non, l'État ne doit pas forcément se retirer de tout. Ça, c'est une position qui est purement idéologique. Il faut savoir où il est pertinent, à quoi ça sert et avec quelles limites. Un dernier mot, deux, si vous permettez, Philippe, 400 millions d'euros... ça fait 1 million d'euros l'emploi. Vous avez raison, on peut rire sans fin là-dessus. Mais en 2021-2022 arrive le plan de charge du TGV du futur. Donc, ces emplois s'amortiront aussi dans la longue durée. Et ensuite, il n'est pas impossible, ça ne vous a pas échappé, le président de la République a dit hier qu'il était favorable à la ligne TGV Poitiers-Limoges. Je ne serais pas surpris de retrouver les TGV-PV en nouveau TGV sur une ligne probablement peu rentable, Poitiers-Limoges.
Tulle.
Peut-être Tulle. Dernier mot, EDF.
Vu l'état de la gare de Tulle, ça m'étonnerait beaucoup.
EDF, c'est évidemment le gros problème de cette affaire. Le capital, les participations de l'État se sont dépréciées de 28% l'an passé. Et pour moitié, me semble-t-il, c'est l'effet de sa participation dans EDF, qui est victime d'ailleurs de crises qui ne sont pas que le fait de l'État.
François Bujon de l'État.
Et dans Areva, qui est pratiquement en faillite. Donc voilà, ça c'est encore l'exemple type, on ne l'a pas encore mentionné, mais la guerre entre EDF et Areva, qui a duré pendant pratiquement toute la première décennie du XXe siècle, a été totalement dommageable. Et voilà où on voit l'État actionnaire pris à son propre piège. Il est actionnaire des deux, il est incapable de définir, enfin avant l'échec retentissant de l'appel d'offres d'Abu Dhabi, il était incapable de définir une politique et une stratégie industrielle dans ces domaines où il est quasiment tout puissant. Donc, sur le montant des participations, je suis d'accord avec Thierry pour dire que quand il s'agit de sauver une entreprise en difficulté, comme ça a été le cas de PSA, la prise de participation peut être tout à fait justifiée. Et Obama, comme ça, a sauvé l'industrie automobile américaine et a sauvé General Motors. Mais ensuite, l'État ressort. Dans le plan de sauvetage des banques américaines, ça a été pareil. L'État américain les a sauvés et s'en est retiré en moins de 2 ans, généralement. Quand on s'y trouve piégé avec une moins-value, ça devient beaucoup plus difficile. Et sur les participations dans les entreprises de défense, par exemple, je tiens depuis très longtemps que l'État, n'étant pas capable de suivre les augmentations de capital nécessaires ou de procéder aux investissements en capital qui sont réclamés très souvent par le management, il suffit très largement d'avoir une golden share, c'est-à-dire celle qui vous permet d'apposer votre veto quand il y a vraiment une menace sur la sécurité nationale. Prenez Thalès, prenez Safran, la golden share devrait largement suffire à l'État pour y faire respecter les intérêts de la République.
Je vous remercie. Je vous propose que nous nous intéressions maintenant au Brexit et aux conséquences du Brexit. Tout le monde se souvient que par 52% contre 48, les électeurs britanniques ont voté en juin dernier pour une sortie de l'Union européenne. Le 2 octobre, dans son discours d'ouverture du Congrès conservateur, la première ministre, Theresa May, a annoncé l'activation de l'article 50 du traité de Lisbonne avant la fin du mois de mars 2017, les négociations de sortie de l'Union ayant 2 ans pour se conclure avant la tenue des élections européennes en 2019. Le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson, a évoqué le temps où le Foreign Office britannique était le centre névralgique d'un empire 7 fois plus grand que l'Empire romain à son apogée, et une grande loi d'abrogation du traité d'adhésion de 1972, le Great Repeal Bill, sera bientôt débattu au Parlement britannique. Elle devra redonner le pouvoir et l'autorité aux institutions élues du Royaume-Uni. Il n'y a pourtant ni consensus ni certitude concernant les modalités du Brexit. Deux visions s'opposent parmi les conservateurs. Les partisans d'un Brexit doux, d'un soft Brexit, dont le ministre des Finances, David Hammond, proche de la City, accepte de maintenir la libre circulation pour conserver l'accès au marché unique qui accueille 44% des exportations britanniques. Les tenants d'un Brexit dur, d'un hard Brexit, dont Boris Johnson, le ministre du Brexit David Davis et celui du commerce international Liam Fox, acceptent la rupture avec le marché unique pour pouvoir mettre fin à la libre circulation des Européens au Royaume-Uni et à l'accueil des réfugiés. D'ores et déjà, le 5 octobre, le cabinet de Madame May a fait la proposition de restreindre significativement l'accès des travailleurs et des étudiants étrangers aux emplois et aux universités britanniques, proposition saluée par la formation UKIP. Les incertitudes budgétaires liées au Brexit inhiberont la croissance économique fin 2016 et durant 2017 dans une mesure pouvant atteindre 1,1% selon un rapport du FMI. L'Institut d'études fiscales prévoit une réduction du PIB de 4%. Theresa May, qui a insisté sur les opportunités économiques d'un monde plus large que l'Union européenne, entend conclure de nouveaux traités de libre-échange avec la Chine, le Canada, la Corée ou l'Inde. La livre est à son plus bas niveau depuis 31 ans face au dollar et l'euro depuis sa création. Le 7 octobre, les patrons de la Confédération de l'industrie britannique, le premier syndicat patronal du Royaume-Uni, ont exprimé leur crainte d'une rupture totale avec le marché commun dans une lettre ouverte à Madame Theresa May. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange.
Oui, vous connaissez, Philippe, vous connaissez la définition du mariage par Oscar Wilde. Ça consiste à faire face ensemble à des problèmes qu'on n'aurait pas eu séparément. Eh bien, le Brexit, c'est exactement l'inverse. Ça consiste à faire face séparément à des problèmes qu'on n'aurait pas eu ensemble. C'est le type même du jeu à somme négative. Alors, Madame May a cessé, dimanche dernier, par son discours, a cessé d'être Madame Maybe. Ce qui est une nouveauté intéressante, et donc elle a pris fait et cause, ce qui en a surpris plus d'un. Beaucoup de gens pensaient que les Britanniques ne sortiraient pas du Brexit, ne concrétiseraient pas le Brexit. Je n'ai jamais pensé cela. On a discuté quelques jours plus tôt avec à l'ambassade d'Allemagne avec notamment Monsieur Schäuble, et j'avais fait remarquer que c'était nécessairement maintenant que ça devait se produire, parce que pour la raison que vous avez dit, les deux ans. C'est-à-dire que le gouvernement britannique est incapable de ne pas organiser des élections européennes si le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne, et il est évidemment incapable d'organiser des élections européennes après le référendum. On ne peut pas dire aux Britanniques, maintenant vous allez élire des députés européens. Monsieur Farage peut conserver ses prébendes pendant quelques années, pendant deux ans, mais on ne peut pas. Donc, il y avait, et on voyait, ça correspond parfaitement, non seulement en 2020, il y aura les élections générales, et là, il faut que les partis soient en ordre, mais dès 2019, il faut que ça soit réglé, et donc, vous avez deux ans de négociations, et c'est maintenant. Donc, voilà. Donc, elle a sorti son ce qui fait d'ailleurs qu'elle va annoncer, elle va mettre en jeu l'article 50 au moment où à Rome, on va célébrer les 60 ans du traité de Rome, ce qui va donner à tout ça une allure absolument surréaliste. Alors, le problème, c'est pourquoi a-t-elle tardé? Pour une raison très simple, c'est que l'ensemble de la classe dirigeante britannique est prise complètement à dépourvu. Ils ne savent absolument pas que faire, ils n'ont rien préparé, rien prévu, et ils n'ont pas de scénario. Ils ont un peuple britannique qui les pousse aux fesses en leur disant « il faut sortir », mais ils ne savent pas. Et maintenant, ils sont obligés de sortir. Alors, est-ce que ça débouche sur un « hard Brexit », comme on l'a dit? Je crois qu'il faut nuancer cette affaire. Parce qu'il est évident que le discours de Madame May a été un discours plutôt dur, que les recommandations aberrantes du ministre de l'Intérieur demandant de « naming and shaming », comme on dit, les étrangers qui travaillent dans les entreprises britanniques, on va faire des listes des étrangers qui travaillent dans les entreprises britanniques, tout ça est quand même extrêmement toxique, extrêmement déplaisant et donne une impression négative. Moi, il me semble que la première raison pour laquelle Madame May est assez dure, c'est parce que les Britanniques sont démunis, qu'ils ont, dans la négociation, un deux de trèfle, en réalité. Ils veulent, la meilleure situation, c'est celle qu'ils quittent. et dont les électeurs leur ont dit qu'il ne fallait pas l'appliquer. Ils veulent garder cela. Pour garder cela, ils ont intérêt à montrer les crocs, parce que effectivement, ils n'ont aucune arme. Et d'autre part, le fait qu'on soit obligé de faire jouer l'article 50 oblige à être dur, parce que l'article 50, ça déclenche un deadline, comme on dit en bon français. C'est un compte à rebours qui s'ouvre. C'est un compte à rebours qui s'ouvre, et au bout du compte à rebours, dans 2 ans, si rien ne l'aboutit, les Anglais sortent comme ça, tout nus, comme dirait le général de Gaulle. Et ça, il faut absolument que la négociation soit rapide et dure de la part des Britanniques. Ils montrent ce qu'ils veulent faire. Mais je crois qu'il faut dire 2 choses en conclusion. La première, c'est qu'un hard Brexit, ça va durcir tous les problèmes qu'ils ont, les problèmes avec l'Écosse, les problèmes avec l'Irlande, les problèmes de la City, qui va quand même être en très grande difficulté pour continuer à garder ses positions en Europe continentale. D'une façon générale, c'est une aberration géopolitique complète que de prétendre organiser l'avenir d'un pays qui est libéral, ouvert, sur une rupture avec tous ses alliés les plus proches, les Européens occidentaux et accessoirement les États-Unis, qui ne marquent aucun enthousiasme pour la position de Madame May et des Britanniques, et d'essayer de restaurer le fantasme de Chamberlain, le vieux Chamberlain, le fantasme de la préférence impériale de l'Angleterre mondiale, ce qu'a dit Monsieur Johnson et ce qu'a dit Theresa Villiers, qui était ma collègue, qui était une redoutable parlementaire, qui était plus habile tactiquement qu'inspirée stratégiquement.
François Bujon de l'Étang.
La semaine qui vient de s'écouler a été très importante, puisque c'est la première fois, finalement, depuis le vote, que les Britanniques donnent une indication sur ce qui va se passer. Madame May, vous l'appeliez Madame Maybe, mais je croyais que ses adversaires l'appelaient Theresa May en May Not, est sortie du bois. Elle a donné la date de l'article 50 et de le projet de loi qu'elle veut introduire au Parlement de Westminster. On a une ébauche de calendrier, on sait à peu près à quoi on s'en tient. Jusqu'à présent, on était un peu dans la situation de la drôle de guerre, au fond, pendant l'hiver 1939. La guerre avait été déclarée, mais pas un seul coup de feu n'avait été tiré, et on ne savait pas du tout ce qui allait se passer. Ça a duré 9 mois. Dans le cas des Britanniques, ça a été un peu plus bref. On y voit plus clair. C'est donc l'importance du discours de Birmingham. On y voit plus clair, et on voit qu'au fond, Madame May choisit pour l'instant une option qui semble être celle du hard Brexit. Elle a notamment été extrêmement insistante sur la question des frontières. Elle a déclaré de la façon la plus claire que le Royaume-Uni voulait avoir le contrôle de ses frontières, quel qu'en soit le coût, ce qui va évidemment complètement à l'encontre des conditions nécessaires pour pouvoir avoir accès au grand marché intégré de l'Union européenne. Alors, face à cela, quelques remarques. La première, c'est que l'Union européenne, face au Brexit, maintient pour l'instant un front commun. Il faut s'en féliciter. Le front commun, ça consiste à dire, premièrement, aucune négociation d'aucune sorte avant que les Britanniques n'aient appuyé sur le bouton de l'article 50. Et deuxièmement, il est évident que pour avoir accès dans l'avenir au marché intégré, le Royaume-Uni doit accepter les 4 libertés, la liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux et des services. Voilà, donc ça c'est clair pour l'instant. Et puis, elle commence à s'organiser. L'Union européenne, elle a désigné Michel Barnier pour être en charge de la négociation. Elle a précisé que ce serait la responsabilité du Conseil européen de définir les grandes lignes de la négociation, mais que ce serait celle de la Commission de les mener. Et puis, elle commence à 27 une timide réflexion sur l'avenir de l'Union européenne sans le Royaume-Uni. Bratislava, en septembre, était la première conférence informelle. À 27, il y en aura d'autres. Bien. Mais les incertitudes qui demeurent sont extrêmement nombreuses. Il y en a deux qui me paraissent très importantes. La première, c'est le processus lui-même. Jean-Louis l'a indiqué, l'article 50 déclenche un délai, d'après le traité, de 2 ans pour négocier l'acte de divorce, si vous voulez, le détricotage de la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne. On a maintenant une date butoir, effectivement, qui se situe en mars 2019. 19, soigneusement choisi d'ailleurs, pour être juste avant l'élection au Parlement européen et bien entendu encore plus avant la prochaine élection parlementaire britannique. Mais il reste une autre négociation dont on parle assez peu, qui est celle sur le statut futur du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne. Et il y a une telle imbrication entre le détricotage de la situation actuelle et l'ébauche d'une solution future qu'on ne sait pas si cette deuxième négociation sera quasi concomitante ou si elle sera la succession de la première. On est donc encore dans le flou là-dessus. Et puis l'autre incertitude, c'est sur le but de guerre, au fond, des Anglais. Est-ce que c'est le hard Brexit ou est-ce que c'est le soft Brexit? Or, là-dessus, on constate que les conservateurs britanniques qui sont au pouvoir sont tout aussi divisés qu'il l'était avant le référendum. Alors ça, c'est une ironie de l'histoire, puisque M. Cameron a expliqué pendant longtemps qu'il voulait faire un référendum pour mettre fin à la controverse permanente au sein du Parti conservateur entre les eurosceptiques et les pro-Union européenne. Voilà que le référendum a eu lieu. M. Cameron est d'ailleurs le premier cadavre sur le champ de bataille. Il a disparu. Les leaders anti-pro-Brexit se sont dans l'ensemble évaporés jusqu'à ce que Mme May les remette devant l'obstacle, mais voilà que pendant les années qui viennent, on va avoir des controverses entre les partisans du soft Brexit, comme le chancelier de l'échiquier, en effet, ou la City, ou les milieux d'affaires, et les partisans du hard Brexit, qui sont très bien représentés au sein du gouvernement. Donc on n'est pas du tout sorti de la situation qui avait justifié dans l'esprit de M. Cameron la tenue d'un référendum. C'est quand même un comble, encore bravo.
Sylvie Goffman.
Alors après la drôle de guerre, on a eu, je crois, à Birmingham la première salve, la première offensive. Et je dois dire que Mme May a sorti quand même, pour commencer, la grosse artillerie. Parce que son discours était extrêmement offensif, à la fois sur le plan européen, sur le plan du Brexit et sur le plan intérieur britannique. Et je voudrais y revenir parce que Jean-Louis en a un petit peu parlé, mais c'est quand même assez intéressant, y compris dans notre contexte national. Alors, sur le Brexit lui-même, Theresa May a l'air de vouloir opter dans un premier temps pour le hard Brexit. Je crois que c'est beaucoup sous la pression politique intérieure. Est-ce qu'elle avait le choix vraiment? Elle fait un pari risqué là en mettant là effectivement en mettant cette date butoir de mars. Ça veut dire qu'à partir de mars, la Grande-Bretagne a les mains liées par ces deux ans et d'une certaine manière, ce sont les 27 qui ont la main parce que tout le monde voudra un accord, mais le Royaume-Uni en voudra un encore plus évidemment. Donc elle est assez critiquée tactiquement pour ça, mais je pense qu'elle n'avait pas le choix parce que elle a cette pression derrière des gens. Elle a quand même 52% des électeurs qui ont voté, enfin des votants qui ont voté pour le Brexit, et on a assez traîné, il faut y aller. Alors, voyons cette possibilité du hard Brexit, Angela Merkel a réagi très vite et de manière assez hard aussi, en tout cas assez énergique, en disant attention, il n'y aura pas, et elle l'a dit je crois deux fois de suite, il n'y aura pas d'accès total au marché unique de la Grande-Bretagne sans acceptation des quatre principes de base sur la libre circulation. Il n'en est pas question parce que, dit-elle, cela déclencherait un processus où chacun en Europe ferait ce qu'il veut quand il veut. Et là, ça serait, je crois, effectivement, c'est la grande peur de la boîte de Pandore, ça serait la fin du projet européen, effectivement, si on en arrivait là. Alors, il y a des gens, y compris dans le camp conservateur, qui disent, bon, là, c'est très tendu au début, ce sont les positions de négociation du début. En réalité, les choses pourraient se détendre à partir du mois de mai. Pourquoi à partir du mois de mai? Parce qu'il y a l'élection présidentielle française et que si Marine Le Pen n'est pas élue, l'atmosphère sur l'Europe va se détendre. Bon, ça reste à voir. Mais alors quand, justement, c'est là que je viens à l'aspect intérieur du discours, enfin du deuxième discours de Mme May, c'est assez inquiétant. Parce que si vous prenez la lettre de ce qu'elle a dit sur à la fois le refus de l'immigration, cette révolution tranquille dont en gros, ce qu'elle dit, elle, c'est que le vote au référendum, le vote des Britanniques, est beaucoup plus qu'un vote pour Brexit. C'est un vote, c'est une révolution tranquille, c'est beaucoup plus large, c'est un tournant dans l'histoire britannique, c'est quelque chose qui n'arrive que dans une génération, enfin que oui, dans une génération, et qu'un changement est donc impératif. Et ce changement, c'est quoi? C'est le retour de l'État-nation, c'est le retour de l'interventionnisme d'État, c'est donc ce contrôle de l'immigration, avec des accents de la ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, très inquiétants, je trouve très déplaisants, cette façon de dire il faudra que les entreprises donnent le nombre d'étrangers qu'elles ont, éventuellement donc donner les noms. On a des incidents déjà qui se produisent. Je trouve, pour un pays comme la Grande-Bretagne, qui a une tradition d'ouverture, qui rendez-vous compte que 42% des médecins spécialistes du service public de santé sont étrangers. Alors on dit il faut donner la priorité aux Britanniques, moi je veux bien, enfin on a des situations similaires dans d'autres pays européens. Comment fait-on? Tout ça est d'un populisme qui est, dans le contexte de notre campagne électorale, je trouve, extrêmement inquiétant.
Alors, Sylvie a raison de mentionner que Mme Thatcher a dû se retourner dans sa tombe en entendant le discours sur l'économie de Mme May. Thierry Pêche.
Oui, effectivement, Mme Thatcher a dû se retourner dans sa tombe, et là, maintenant, elle est sur le ventre, hein, parce que, franchement, moi, j'ai lu le discours de Birmingham, et les bras m'en sont tombés. Sylvie a parfaitement raison. Le discours de Birmingham... Voilà, ce qu'il en reste. Ça devait être la victoire de Samothrace. Bon, alors, ce qui est vraiment surprenant dans ce discours, c'est que c'est le « je vous ai compris » de Theresa May. Vous avez dit vous voulez sortir de l'Europe. En fait, moi, ce que j'ai entendu, c'est le cri des perdants qui, depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, attendent qu'on s'occupe d'eux. Attendent qu'on leur donne de l'éducation, attendent qu'on leur donne du logement, attendent qu'on leur donne des jobs, etc. Et donc, elle a des accents du George Orwell dans La Dèche à Paris et à Londres, d'une espèce de socialisme à visage humain, des accents keynésiens. Elle fait un discours qui franchement ne déparerait pas, dans sa première partie, dans la bouche d'un leader travailliste. Elle vole son programme à la gauche, d'une certaine façon. Plutôt que son programme, elle vole sa rhétorique, son style, ses valeurs discursives à la gauche. Mais à la fin, tout ça n'est qu'un habillage. Tout ça n'est que l'habillage d'un désastre politique et géopolitique. Ce que les conservateurs qui suivent Theresa May disent aujourd'hui, c'est « nous repoussons tout ce que nous avons incarné et voulu » ces 30 dernières années. Enfin, franchement, l'Europe du libre-échange absolu, l'Europe de la libre circulation totale, c'était l'Europe que voulaient les Anglais. C'était l'Europe du marché. C'est l'Europe qu'ils ont voulu imposer à tous. Et aujourd'hui, c'est ceux qui ont créé ce discours, cette idéologie, cette Europe, qui se tournent vers leur propre population en disant « Non, c'est vraiment pas ce qu'il fallait faire. Franchement, c'est pas bien d'avoir fait tout ça pendant des années. C'est à taper le cul par terre, si vous voulez, vraiment le fond de ma pensée. » Alors, mais c'est un habillage. Et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer le désastre annoncé. La livre est en train de décrocher. C'est quoi la conséquence du décrochage de la livre sterling? Moins 16% depuis le Brexit. C'est que les Britanniques payent plus cher leur alimentation. Et c'est pas les Britanniques qui ont de l'argent, des moyens et de belles situations. C'est les Britanniques auxquels s'adresse Theresa May en disant « je vous ai compris ». C'est les Britanniques du peuple. Quand on a la structure d'offre de l'économie britannique, la dépréciation de la livre n'est pas une bonne nouvelle. C'est pas vrai. Et ça n'est que le début. Et moi, je pense, je l'ai dit ici, je veux le redire avec vigueur, je pense que la politique n'est pas un spectacle télévisuel, c'est un monde réel qui doit avoir des conséquences. Les conséquences du Brexit vont avoir lieu.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. À nouveau, c'est désastreux. Je suis toujours d'accord avec Thierry, je ne vais pas m'en remettre.
Vous devriez parler le premier, comme ça.
Je crois effectivement que c'est un double rejet de Margaret Thatcher et de Tony Blair, au profit des deux leaders qui ont été rejetés au Parti travailliste et chez les conservateurs, qui sont Michael Foot et la gauche du Parti travailliste contre laquelle s'est reconstruit le Parti travailliste dans les années 90-2000, qui étaient des choses qui avaient conduit l'Angleterre, l'avait mise à genoux dans les années 70. Quand le Royaume-Uni est entré dans l'Europe, elle était à genoux. Maintenant, elle est beaucoup mieux. Et deuxièmement...
Il faut rappeler que l'Angleterre avait eu recours au FMI.
Et deuxièmement, Enoch Powell, le ministre, shadow ministre de la Défense de Edward Heath, qui avait fait ce discours, je crois, également à Birmingham, Birmingham, Manchester ou Birmingham, j'hésite, sur un discours qui est passé à l'histoire sous le titre du discours des rivières de sang, où il parlait de l'immigration en disant « As the ancient Roman, I see the Tiber foaming with much blood ». Et donc le Tibre écumant d'un sang abondant, etc. Il a été rejeté. Et il dénonçait effectivement la présence immigrée. Et donc, de ce point de vue-là, il y a un grand point commun entre le discours de la droite du Parti conservateur, à laquelle Madame May prête un peu de légitimité, et le discours de Le Pen en France. Moi, je ne crois pas que le dernier mot soit dit. Je pense que Madame May est obligée de durcir actuellement, que Michael Hammond, qui était le chancelier de l'échiquier, qui était un ancien favorable au Brexit, un partisan du Brexit qui a changé, est en train de montrer que ça va mal, que tout ça conduit à des résultats très difficiles. Et je pense qu'il y a aussi, dans cet exercice actuel du gouvernement conservateur, il y a aussi la volonté de faire la preuve par l'absurde qu'un Brexit dur, eh ben, ça aura des conséquences extrêmement négatives.
Sylvie Kaufmann.
Oui, je crois aussi que la messe n'est pas dite. Enfin, elle est dite sur France Culture, mais elle n'est pas dite là, en l'occurrence. Parce qu'il y a deux éléments. D'une part, les 52% qui ont voté pour le Brexit. Ils ont voté pour ou contre le Brexit. Enfin, ils ont voté pour, en l'occurrence. Mais on ne leur a pas donné le choix entre soft ou hard. Donc déjà, je crois qu'il y a une partie de ces électeurs pro-Brexit qui vont être surpris. Et puis, il y a les 48% quand même, qui sont totalement à l'opposé de cette stratégie, de cette identité telle qu'elle est décrite. Quand Theresa May dit « quand on est citoyen du monde, on est citoyen de nulle part », et qu'on regarde la ville de Londres, on voit bien qu'il y a un fossé énorme entre ces deux conceptions de l'identité britannique. Et je crois que tout ça va beaucoup bouger dans les semaines et les mois qui viennent.
François Bujon de l'État.
Donc, juste un mot de mise en garde, c'est que nous nous interrogeons sur l'état des esprits en Grande-Bretagne et les Anglais vont, eux aussi, pendant longtemps, continuer de s'interroger. Il faut penser d'abord à nous, si j'ose dire, et à nos intérêts. Or, on ne le fait pas suffisamment, finalement. Je suis frappé de voir le nombre de gens qui s'interrogent sur ce que serait la meilleure solution pour la Grande-Bretagne, le hard Brexit, le soft Brexit, la solution norvégienne ou suisse. Mais c'est à nous à nous interroger sur ce qui est dans les plus grands intérêts de l'Union européenne. Or, là-dessus, mon mot de mise en garde, il est double. En réalité, premièrement, il faut éviter de gaspiller ses forces pour s'interroger et se concentrer sur ce que nous devons faire. Et le front uni, pour l'instant, de l'Union européenne ne va peut-être pas rester uni si longtemps que cela. On voit déjà des amorces de division se dessiner.
Thierry Pêche. Notre intérêt, François, c'est d'être dur maintenant.
Mais oui,
après,
mais
on
bien
dit,
sûr.
Bon, et un deuxième mot, on n'a rien dit de la loi d'abrogation, la fameuse loi d'abrogation que propose Theresa May, qui est en fait une loi d'intégration du droit européen. Donc, en fait, elle s'est trompée de George Orwell. C'est pas le George Orwell dans La Dèche à Paris, c'est le George Orwell de 1984, Ministère de la Vérité. Les mots veulent dire leur contraire, en réalité.
Donc, je vous remercie. Ouais. L'heure de notre dernière séquence, celle des brèves, a sonné. Je vais l'introduire brièvement en recommandant deux choses. La première, c'est un spectacle au Théâtre des Bouffes du Nord pour encore quelques jours, mais il va tourner à travers la France et sans doute même à travers d'autres pays. C'est une Traviata à la loupe, si je puis dire. La loupe, c'est Benjamin Lazare, le metteur en scène, qui la tient. Et la Traviata, c'est Judith Chemla, qui est une actrice et une chanteuse extrêmement fine, et que donc je recommande très chaudement cette Traviata. Et je recommande non moins chaudement un film qui va sortir mercredi prochain, qui est Le Voyage à travers le cinéma français de Bertrand Tavernier, qui a fait pour le cinéma français ce que Martin Scorsese avait fait pour le cinéma américain. C'est évidemment le travail d'un homme d'une érudition extraordinaire, mais d'une érudition qui est tellement dynamisée par la passion, par le goût de la découverte et par le goût du partage, que ce film qui dure 3h10, je l'ai vu dans une projection juste avant les vacances, les gens étaient fâchés en sortant que ce soit fini et ils en voulaient encore. Il y en aura d'ailleurs encore puisqu'il y aura ensuite une série télévisée. Donc Le Voyage à travers le cinéma français à partir de mercredi dans toutes les bonnes salles de cinéma. François Bujon de l'Étang.
Un mot pour relever la sortie aux éditions Robert Laffont d'un livre sur l'Arabie Saoudite. Il n'y en a pas tellement. C'est un livre de Pierre Conessa, qui est un ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense.
Il a écrit un guide du paradis absolument drôlatique et remarquable.
Voilà, celui-là est moins drôlatique, mais il est tout à fait intéressant. Il s'intitule « Docteur Saoud et Monsieur Djihad » et il porte essentiellement sur la diplomatie culturelle de l'Arabie Saoudite. Le livre est préfacé par Hubert Védrine et il est tout à fait intéressant parce que il contient énormément d'éléments qui ne sont pas connus du grand public sur la façon dont le wahhabisme s'exporte avec des méthodes, dit Pierre Conessa, qui sont largement les méthodes américaines du soft power, mais qui, dans leur méthodologie d'application, sont celles du soviétisme.
Sylvie Kaufmann.
Alors moi, je voudrais saluer la naissance cette semaine de l'Agence européenne des gardes-côtes et des gardes-frontières, parce qu'en ces temps de délitement de l'Europe, c'est une avancée importante qui permettra sécuriser les frontières européennes. C'est une grande demande des eurosceptiques. Et à cette occasion, je recommande la lecture de ce très beau livre qui est l'Atlas des frontières, rédigé par Bruno Tertrais, et les cartes sont de Delphine Papin. C'est un ouvrage original, c'est sur murs, conflits et migrations. C'est beau à regarder, c'est intéressant à lire et c'est en plus très très utile, je le recommande.
Thierry Pêche.
Moi, je vais vous parler d'un spectacle que vous ne pourrez pas voir parce qu'il est terminé, qui était éblouissant, qui était un spectacle de danse contemporaine, Ocre, de Stephen Page et de la compagnie Bangara, qui sont des danseurs australiens d'origine aborigène, qui se produisaient au théâtre du Quai Branly à Paris cette semaine. C'était vraiment un très très beau spectacle. Mais puisque vous pouvez encore aller au Quai Branly, qui lui n'a pas bougé, je vous recommande.
Sinon, vous pouvez aller en Australie, si
voilà,
vous voulez vraiment voir.
Mais aller au Quai Branly, c'est vraiment un lieu merveilleux. Qui fait rêver, pas simplement un lieu qui cultive.
Jean-Louis Bourlange.
Oui, moi je voudrais revenir, j'avais eu un petit échange avec Thierry là-dessus, sur le livre de Pierre Cahuc et André Zilbelberg, Le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, chez Flammarion. J'avais marqué une petite réserve et je la maintiens, mais je trouve que ce livre est quand même tout à fait remarquable parce qu'il dénonce trois choses dans l'approche assez généralement répandue par un certain nombre d'économistes. Il dénonce trois choses qui sont graves, qui sont d'abord la dictature de préjugés politiques sur des considérations économiques. Deuxièmement, un certain mépris des leçons de l'expérience, du mépris de la méthode expérimentale. Et même, troisièmement, un mépris des liaisons logiques. Quand on dit, par exemple, je donne cet exemple, que le prix du travail n'a pas d'influence sur la décision d'embauche, c'est évidemment absurde. Cela dit, et c'est là où était ma réserve, et je la maintiens, je trouve qu'il faut aller plus loin. J'inviterai les deux auteurs à faire un second livre, parce que malgré tout, l'économie, c'est pas quelque chose qui s'affranchit de la politique, car la politique, c'est ce qui détermine les buts de l'économie. On est pour l'égalité, ou on est pour la liberté, on a des valeurs qui sont des valeurs indémontrables. Deuxièmement, l'expérience économétrique en particulier, ça, c'est une manipulation d'un si grand nombre de données qu'on n'est jamais très sûr de notre affaire. Il faut donc prendre ça avec beaucoup de prudence, et il en va de même. Et en revanche, je crois qu'on a vraiment intérêt à réaffirmer les devoirs de la logique par rapport notamment des théories, par rapport à l'expérience. Donc je trouve qu'il ne faut pas être trop expérimentaliste. Donc j'invite nos deux auteurs à poursuivre dans cette juste voie et à nous donner un second volume bientôt.
Je vous remercie. Est-ce qu'il y a dans la salle ou autour de cette table quelqu'un qui sait combien il existe de variétés de choux farcis ? Il en existe 77 760, c'est du moins ce que soutient Alan Weiss, que reçoit tout à l'heure Alain Kruger après cette émission, dans une émission intitulée « Métaphysique du chou farci et de la miette ». Je croyais qu'il n'y avait que les Aveyronnais pour savoir que le chou farci était riche en métaphysique et en calories aussi.
C'est juste un peu plus que ce qu'il y a de contrats de travail différents aujourd'hui dans le droit du travail.
Voilà donc avec qui vous avez rendez-vous dans un instant. Il ne manquera pas de vous passionner. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer, réalisée par Luc-Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathieu Farizier, avec aujourd'hui à la technique Claire Levasseur, Julie Garand et Éric Villenfin. Je remercie le public du studio 105 qui a donc, comme je le disais tout à l'heure, affronté les hordes de joggeurs et les barrières de la préfecture de police pour venir jusqu'ici nous soutenir par sa concentration et son attention. Merci.